Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui encore dans Radio Foot International sur cette radio mondiale qu'est RFI et bien sûr, et pour vous parler en cette fin d'après-midi de football. Dans cette Ligue des Champions qui, chaque fois en milieu de semaine, nous et vous fait vibrer, bien sûr. Alors, nous commencerons par la soirée et ce suspense qui s'annonce à Madrid avec le retour du derby espagnol pour une place en quart de finale. Les Merengues, qui l'avaient emporté 2-1 chez eux, iront avec Kylian Mbappé, défier les Colchoneros, imprenables dans leur stade metropolitano. Le Real, champion en titre, est-il en danger face à l'Atlético ? L'autre grande Espagne, le FC Barcelone, s'est facilement qualifié hier soir aux dépens du Benfica de Lisbonne et l'intenable Rafinha a pris la tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition. 11 buts juste devant Serhou Guirassy. François David sera en ligne avec nous depuis l'Espagne. Le Paris Saint-Germain, plus fort que Liverpool, le PSG a vite marqué avant de lutter et de résister aux assauts des Reds, de se qualifier ensuite à l'issue des tirs au but avec l'aide d'un gardien en état de grâce, Gianluigi Donnarumma, désigné homme du match à Anfield. Bravo, dit Gio, et c'est ce que lui dit la presse italienne d'ailleurs ce matin. Invité dans ce studio aujourd'hui, il y a Shérif Guémour. Bonjour Shérif.
Bonjour, bonsoir Ami, bonsoir à tout le monde.
Bonjour Shérif, bonjour David Lortolari.
Bonjour Ami, bonjour à tous.
Manu Terradios, notre confrère espagnol. Bonjour Manu.
Buenas tardes, bonjour à tous.
Buenas tardes, oui, c'est plus précis d'ailleurs. Bon après-midi, n'est-ce pas? Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Le Real prend un petit avantage, mais ça promet encore une fois un deuxième round passionnant la semaine prochaine.
Real Madrid 2, si alguien puede explicar lo que lo explique, Atlético de Madrid 1.
Le match aller avait été haletant, le retour le promet tout autant dans cet Euro-derby, peut-on dire, car cette confrontation entre les deux clubs madrilènes, entre l'Atlético et le Real, survient bien sûr en compétition européenne et elle a conservé tout son suspense autour de celui qui se qualifiera ce soir. Les Merengues ont bien gagné chez eux à Bernabéu, vous l'avez entendu, mais un seul but d'écart, 2-1, et on a vu hier soir qu'un but d'écart, ça se remonte aussi ce soir. Ils joueront donc sur la pelouse de l'Atlético contre un groupe qui, depuis qu'il est dirigé par Diego Simeone en 2011, ne perd jamais son match de Ligue des Champions à domicile. Bon soldat du Cholo, vous allez l'entendre, l'Argentin Rodrigo De Paul, par ailleurs champion du monde, il n'a qu'un seul objectif pour ce soir.
Je pense que toutes les données sont fondamentales dans un match à élimination directe comme celui-ci. L'aspect mental est important, mais l'aspect tactique et physique l'est aussi. C'est un tout. Il ne s'agit pas d'une seule et unique chose. Il faut donc être prêt dans tous les domaines pour pouvoir obtenir ce que l'on cherche, c'est-à-dire nous qualifier pour les quarts.
Et oui, bien sûr, se qualifier en quart. Alors, quand sera-t-il ce soir? On va humer l'air du côté de l'Espagne avec François David. Hola, François.
Buenas tardes, Annie. Bonjour à tous.
Buenas tardes. Cher François, c'est un match qui, a priori, promet une grande confrontation, en tout cas un grand défi. Les Colchoneros, on s'en souvient, avaient quand même perdu de peu au match aller.
Ils avaient perdu de peu, surtout qu'ils n'avaient pas pu profiter un petit peu des absences du Real Madrid. On se souvient que Valverde avait joué latéral, Bellingham n'était pas là, on n'avait pas vu un grand Mbappé, un grand Vinicius, et malgré tout, ils avaient perdu contre le Real de but à un, avec deux exploits, hein, le premier de Rodrigo au bout de 5 minutes, et après Brahim Diaz. Certes, l'Atlético avait bien joué, avait globalement dominé, mais ils n'avaient pas, déjà, ils s'étaient pas procuré des grosses occasions, à part peut-être Griezmann contre Courtois. Et bah, finalement, le réalisme l'avait emporté. Maintenant, ça va être différent parce que Bellingham sera là. Mbappé, on ne sait pas s'il sera là encore. Il y a encore un doute. On va voir s'il peut être aligné. Mais Vinicius fera sûrement un meilleur match. Mais bon, il y aura ce facteur, évidemment, du terrain de l'Atletico. Vous l'avez dit, hein, cette mystique, ils n'ont pas perdu depuis que Simeone est là à domicile. Et je pense que oui, ils peuvent avoir des regrets. Je pense qu'ils méritaient le match nul. Mais ce sera encore meilleur pour ce soir d'avoir ce petit but de différence, ouais, entre les deux.
Manu Taladios, vous pensez que ça va être, alors on le dit parfois du 50-50, mais c'est-à-dire même avec ce but de retard, les Colchoneros sont un épouvantail?
Non, je crois que c'est 50-50, franchement. C'est pour moi un match qui sera si intense que le match des Liverpool et PSG, mais moins spectaculaire, je trouve. Je crois qu'il y aura une distance très courte. Ça sera un 0, un partout, quelque chose comme ça.
Comme en championnat, comme en Ligue 1, les deux matchs d'avant.
Oui, et un partout dans les deux cas. Je crois que l'effet de que le Real arrive avec un but des davantage, ça équilibre un peu les choses. Mbappé a fait des tests ce matin, plutôt vers midi. Il s'est testé avec les ballons, des frappes, etc.
Il souffrait de la cheville, hein, rappelons-le.
Voilà, oui. Mm. Normalement, c'était OK. Je crois qu'il devrait jouer.
Oui, il est annoncé titulaire par certains confrères, mais après, c'est vrai que jusqu'à 20h, on ne saura pas.
Hier soir, je crois que chez les Real, il s'était un peu plus inquiet que cet après-midi, que ce matin, après les tests des Mbappé. Mais en tout cas, bon, ça va être pour moi un match très, très serré. Donc, je dirais que l'avantage de jouer à la maison pour l'Atlético, c'est un peu compensé par les buts davantage de Real Madrid. Je crois qu'on va avoir un match très intense et avec un score très, très court.
Oui, 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 je pense qu'ils vont se tenir de très près. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, c'est cette équipe de l'Atlético en Ligue des Champions. Elle a une certaine invincibilité. Elle a 11 victoires et 6 nuls à domicile. Mais aussi, les statistiques sont cruelles pour l'Atlético puisque en 5 confrontations dans 7 compétitions entre l'Atlético et le Real, hein, c'est pas la première fois. Alors, ça existe depuis 1958-59, mais surtout dans les années 2010, où cette équipe est devenue beaucoup plus forte, eh bien, les Melengues sont toujours sortis vainqueurs face aux Colchoneros. Et on va écouter Antonio Núñez, ancien joueur du Real, ancien aussi Liverpool, que vous avez eu au téléphone, Manu Taladios. Et lui, il parle des deux joueurs qui, selon lui, vont faire ou peuvent faire basculer cette rencontre.
Le joueur clé de la rencontre devrait être Kylian Mbappé, car je pense que c'est lui qui est le plus apte à faire la différence seul. Nous l'avons vu lors de certaines rencontres. Et on pourrait dire aussi la même chose de Vinicius. Quand Vinicius est dans un bon jour, il est quasiment imparable. Je pense que ces deux joueurs peuvent être décisifs s'ils sont en grande forme. Et même si ce n'est pas le cas, comme nous avons pu le voir lors du match aller. Et du côté de l'Atlético Madrid, en effet, Julian Alvarez semble être l'homme en forme. Mais il y a aussi Griezmann, qui à tout moment peut changer le cours du match. L'Atlético a aussi une équipe exceptionnelle.
Manu, incertitude autour de Mbappé et en même temps, Mbappé-Vinicius, ça peut fonctionner. On l'a déjà vu dans certains matchs et on l'a vu ce week-end.
Oui, c'est vrai que les matchs allés, ils étaient un peu transparents tous les deux. Mais ce week-end, quand ils sont battus Rayo Vallecano 2-1, c'est tous les deux qui ont marqué, donc un but chacun. Un but magnifique surtout des Vinicius. Pas mal non plus celui de Mbappé. Donc je crois que de ce côté, il n'y a pas trop de soucis. Il y a des matchs qu'ils vont jouer bien, d'autres un peu moins bien. Mais ça va. Par contre, Griezmann, il a marqué un seul but lors des derniers 8 matchs qu'il a joué. Voilà. Ils sont perdus face à Getafe. Un match qui, il faut dire aussi, Julian Alvarez, il était un peu transparent. Il n'a même pas tiré une seule fois lors du match.
Ouais. Chérif, j'avais une question. C'est... hier, on s'interrogeait sur le sort à venir du Paris Saint-Germain en se disant ils avaient dominé le match aller au Parc des Princes, mais ils avaient perdu. Ouais. Est-ce que vous voyez un parallèle entre ce match qui avait eu ce match aller et puis le match aller entre le Real et l'Atlético?
Ouais, un peu, parce que c'est pas une petite domination, c'est une grosse domination, un gros temps fort de la part de l'Atlético. Mais surtout, ce qui m'avait surpris, c'est qu'ils n'ont pas peur du Real, en fait. Après, ils seront peut-être éliminés, dans la foulée de toutes les éliminations qu'il y a eu auparavant. On n'en est pas là. Même quand ils se font sortir, l'Atlético n'a pas peur du Real. Ils jouent toujours leur chance à fond. Donc, de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude. Et je pense qu'ils vont se souvenir de cette équipe, mais vraiment qu'ils ont fait reculer. Il y a encore eu un grand Courtois, puis de la chance. Et je voudrais insister, c'est le joueur qu'on attend en fait ce soir, c'est Griezmann. Ça fait un bout de temps maintenant que ces dernières semaines, il est pas au top. Faut pas trop compter sur Alvarez. Alvarez, il a fait le boulot au match aller, il a marqué. Mais Alvarez est encore trop jeune pour prendre l'équipe de l'Atlético sur ses épaules. Par contre, Griezmann, c'est lui le patron. C'est vraiment ce genre de joueur qui emmène le reste de l'équipe comme il l'a fait jusqu'en début de saison. Il a fait un très bon début de saison. Moi, c'est surtout Griezmann que j'attends ce soir. J'ai pas d'inquiétude après pour les attaquants du Real.
David Lortolari.
Que les arguments sont partagés, Annie. C'est vrai.
On sent, ça agrémente effectivement tout ce suspense qu'on sent ce soir.
Avec quand même, Chérif en reparle, je trouve à juste titre, cette espèce de côté un peu inexorable que c'est le Real à l'arrivée, soit avec un but, soit avec une prolongation. Et il me semble même qu'il y a une finale de Ligue des Champions entre les deux, l'une des deux équipes, voilà, qui s'est terminée au tir au but.
Ouais.
Horrible.
mais c'est vrai que pour ce qui est du suspense, pour ce qui est de la tension, pour ce qui est de l'intensité, je me fais pas de soucis. Il y a un but d'écart. À la limite, pour l'Atlético, c'est l'idéal. C'est-à-dire, vous avez un but d'écart à l'extérieur, vous êtes chez vous dans ce stade plus grand que jamais, plus impressionnant que jamais. Je dis pas que ça va impressionner les joueurs du Real.
Oui, sans doute.
Oui, voilà, voilà. Mais il y a peut-être quand même. On veut essayer de se mettre toujours un peu dans la tête des joueurs ou de l'entraîneur qui peut faire son argumentaire dans les vestiaires. Il y a peut-être quand même à force un ressort de dire... alors, je ne sais pas si c'est un esprit de revanche, si c'est un esprit de faire basculer finalement...
Il est temps. Il est temps.
Donc, pour quelqu'un comme Griezmann, c'est une vérité. Mm. Pour un jeune comme Alvarez à côté de lui, c'est aussi l'occasion de frapper un grand coup. On est en huitième, mais c'est le Real en face, donc il y a quelque chose à faire.
Évident.
Oblak également.
Pardon, il n'est pas si jeune que ça, Alvarez, il a 25 ans, il est champion du monde. Pour moi, c'est le joueur clé.
Cette saison, c'est Julian Alvarez qui est devenu un peu le leader de l'équipe, peut-être pas au vestiaire, peut-être pas le leader, on va dire, au niveau des charmes, au niveau des personnalités, mais sur la pelouse, c'est les joueurs les plus décisifs.
En tout cas, on veut croire qu'il y a des arguments, effectivement, pour l'Atlético de Madrid pour passer devant. Alors, il y a une petite différence. Moi, je reviens toujours à cette ancienne règle. Vous avez gagné 2-1 chez vous. Souvenez-vous, la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe en général dans l'histoire, vous avez gagné 2-1 chez vous. Vous êtes très fragilisé parce que vous perdez 1-0 à l'extérieur. Vous êtes éliminé. Là, c'est pas exactement pareil. Oui. C'est-à-dire que le Real a son but d'avance. L'Atlético, dans la configuration d'avant, aurait pu se dire on attend au maximum.
Compter double.
Et on va marquer un but dans les 10 dernières minutes parce qu'ils l'ont fait tellement souvent.
Ils aiment bien ça.
Voilà, mais là, ça suffirait pas.
Non,
là,
mais ils ont attaqué. Ils n'ont pas peur du Real.
Oui, c'est ça.
Mais c'est surtout les nouveaux enjeux désormais.
Ça, il faut les voir aussi dans les deux sens. Et Ancelotti, déjà, il n'est pas nouveau dans les métiers. Il a pris ses Real Madrid et il n'a pas de souci pour dire on défende. De la même façon que l'Atlético, il attaque un peu plus quand il les voit. On l'avoue, par exemple, la dernière saison, je crois que c'était quand ils ont fait un partout à Manchester contre City. Et Ancelotti a dit... Il fallait jouer comme ça pour survivre. Mm-hmm. Pas de souci, on défend. Donc voilà.
François David, on citait ces joueurs qui peuvent changer un match, c'est-à-dire d'un côté Mbappé, Vinicius, de l'autre Griezmann, Alvarez. Mais il y a le retour d'un joueur, on l'évoquait aussi, mais qui est très important dans cette équipe ou qui l'a été d'autant plus l'année dernière, c'est Bellingham. Certes remplacé par Brahim Diaz et plutôt bien au match aller, et Brahim Diaz avait même marqué un but. Mais quand même, Bellingham, c'est autre chose, non ?
C'est le joueur, en fait, c'est la superstar qui se sacrifie pour les autres. C'est le joueur qui court le plus au milieu de terrain. D'ailleurs, peut-être que ce soir, il va jouer dans un rôle un peu hybride. Hein. Peut-être numéro 8, aux côtés de Tchouaméni au milieu de terrain. Et on sait que sur coup de pied arrêté, il est très grand, donc il peut marquer aussi de la tête. Bellingham sera important. Je pense qu'un joueur comme Depaul aussi va être très important. Il était très bon au match aller. Et puis,
c'est
deux gardiens.
Colchonero.
Et les deux gardiens aussi qui vont être...
Bien sûr.
Décisif ce soir et je pense moi que on va avoir 5-10 minutes de folie pour commencer les matchs de la part de l'Atlético. Je pense que globalement l'Atlético va dominer ce match-là. Ils vont attaquer. Alors ils vont pas attaquer à comme le Brésil 70 ou le Barça de Guardiola. Hein. Ils vont pas faire ça. Ils vont jouer toujours avec les quatre derrière, toujours alignés, que le milieu défensif va bien rester en position et les cinq autres devant qui vont essayer de faire quelque chose. Mais je pense que globalement, c'est l'Atlético qui va avoir le ballon ce soir.
Alors, pour le Real, qui a déjà évidemment remporté 15 fois cette compétition et qui est le tenant du titre, hein, pour l'avoir remporté, on s'en souvient, c'était face au Borussia Dortmund il y a un an. Un échec en huitième de finale, ça serait quand même une énorme déconvenue hein, pour cette équipe et son palmarès. L'élimination est-elle envisageable ? Écoutons Carlo Ancelotti.
On est dans une bonne dynamique. On est très motivés, comme d'habitude lorsque nous jouons la Ligue des Champions. Ce sera un match difficile, comme cela a été à l'aller. Mais nous sommes confiants, on veut poursuivre dans cette compétition qui nous est chère. Si nous gagnons, alors on pourra rêver d'aller loin dans la compétition, comme nous l'avons fait les saisons précédentes. Ces huitièmes de finale sont plus difficiles qu'avant, mais nous sommes confiants, comme toujours. On continuera de se battre pour la Ligue des Champions jusqu'au dernier match.
Manu, elle a évolué cette compétition, pour ne pas dire qu'elle a changé. Il y a toujours des petits changements. On parlait de ces buts qui ne comptent plus double à l'extérieur. Maintenant,
des matchs en janvier.
Voilà, match en janvier, cette aussi nouvelle configuration et du coup qui donne quand même des huitièmes de finale violents pour certaines équipes. Manu, est-ce que le Real, dans l'idéal de la Casablanca, on ne peut pas être éliminé en huitièmes de finale?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça serait l'excuse parfaite pour ceux... je l'ai dit en pluriel, les patrons du Real qui veulent faire venir Xabi Alonso, ça serait l'excuse.
Puis il est libre, il est plus qualifié.
Non, mais je veux dire, parce que si le Real gagne la Ligue des Champions, hein, faire sortir Ancelotti, ça serait plus compliqué. Mais non, on parle des huitièmes de finale. On parle des huitièmes de finale.
Oui, mais Manu, souvenez-vous, il y a une époque, le Real avait quand même enchaîné plusieurs éliminations en huitièmes. Ça remonte à 20 ans en arrière.
Fut un temps.
Oui,
c'est
arrivé.
Mais
une époque,
depuis, ils en ont gagné 5.
Il y a une époque où le Real a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est pas envisageable, mais pas que pour les Real. Real, même pas pour l'Atlético, ça serait dommage. C'était pas envisageable pour Liverpool ni PSG, c'est pas envisageable pour Barcelone, c'est encore trop loin pour moi, ça serait, je crois qu'élément, ça serait catastrophique.
Il y a une expression qui n'existe pas au Real Madrid, c'est année de transition, saison de transition, ça n'existe pas. Là vous avez parlé des éliminations précoces du Real, ça s'est fini par le limogeage des entraîneurs.
Bien sûr, c'est vrai.
Il y a pas de,
inexorablement.
Pas de cadeau.
François David, ça serait un sacré coup quand même pour ce Real Madrid d'être éliminé.
Bah oui, parce que en championnat on voit qu'ils sont plus dominés par le Barça.
Pas encore champion.
La Ligue des Champions, c'est leur compétition entre guillemets. Mais c'est vrai que si jamais on compare les deux clubs, les gens seraient beaucoup plus critiques si jamais le Real Madrid venait à sortir plutôt que si c'est l'Atlético. Même si. L'Atlético, c'est quand même offert. Le Normand, Alvarez, Sorlotte, ils ont peut-être la meilleure équipe de ces 10-15 dernières années, mais on serait beaucoup plus critique, évidemment. Et imaginez Mbappé. Et Mbappé qui vient au Real pour la gagner, qui sortirait en huitième.
C'est
pour ça, moi, je pense...
François,
Et en plus, le PSG y est. Moi, je pense quand même que ce soir, il va jouer parce qu'il a été signé pour ce genre de match. Il n'a pas été signé pour jouer contre le Rayo Vallecano ou Retafe, malgré tout le respect que j'ai pour eux. Là, c'est un match pour Mbappé ce soir. Mais je pense qu'effectivement, au Real Madrid, et Manu pourra le confirmer, une saison blanche, on sort. On ne gagne pas de titre, on est dehors, sans Ancelotti.
Je voulais te poser une question. Si tu imagines une finale PSG-Barcelone, comment ça sera pour les Madridistas, pour les Madrilènes?
Je crois que ça peut être qu'une demi-finale, d'ailleurs. Il me semble.
Non, Barcelone-PSG, ça donne une demi-finale.
Barcelone est de l'autre côté à nous, à Annie.
Je crois que les Madridistas éteindront leur portable la semaine d'après.
Ah, il serait plus pour le PSG quand même. Il serait plus.
Comme ils vont se faire taquiner par les Barcelonistas ou les fans du PSG. Je crois que pour les Madridistas, ça serait compliqué de tomber si tôt.
Mais on va en parler, mais je pense que le tableau du Barça est quand même beaucoup plus ouvert que celui du Real Madrid.
En tout cas, ce soir, c'est donc le grand rendez-vous dans ce stade Metropolitano entre les deux équipes. Et justement, venons-en au Barça, pour ne pas dire ce cher Barça. Hier soir, il a donc gagné sa place en quart de finale. Et ceci pour la deuxième saison consécutive. C'est à noter parce que les dernières années, on s'en souvient, le Barça a eu beaucoup de déconvenues.
Por fuera, supera Lamin, tiene opción de remate, busca la rosca, golazo, 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 golazo.
Il est injouable, il est génial, tout ce qu'il touche se transforme en or, qui s'étend et des dons incroyables, Yamal pour le 2-1.
Et Lamin Yamal nous acaba de regalar uno de los goles de su carrera, uno de los goles de la temporada.
Et le travail est fait en une mi-temps. Barcelone a renversé le Benfica Lisbonne.
Et oui, victoire à Lisbonne à l'aller et victoire en Catalogne au retour face à ce Benfica. Les Blaugrana ont été intraitables. Hier, on se demandait si Rafinha jouerait. Eh bien, il a joué et il leur a mené la vie dure. Doublé de Rafinha, un triplé sur l'aller-retour. Et le voilà d'ailleurs meilleur buteur de cette compétition. Les Barcelonais se veulent dans la peau du favori. Ils se voient surtout dans la peau du favori. Eux qui n'atteignent plus le dernier carré depuis 2019, c'est-à-dire avant la période Covid. Et écoutons Gavi parce qu'il assume ce statut.
Nous sommes candidats au titre, mais il y a beaucoup de grandes équipes et c'est sur le terrain que tout se joue. Peu importe ce que l'on peut dire, aujourd'hui nous avons su le montrer et nous devons continuer sur cette voie. Le coach accorde beaucoup de confiance aux joueurs et cela se ressent sur le terrain. C'est un élément clé. Lorsqu'un joueur ressent cette confiance, il enchaîne les minutes. C'est le cas actuellement pour Rafinha, pour Lamine Yamal ou encore pour Pedri. Cette confiance est essentielle car ces joueurs sont des éléments clés pour l'équipe.
Alors, les voilà passés avec facilité, François David. Est-ce que le Barça, on avait cru un coup de mou, on avait vu un coup de mou, notamment dans le classement de la Liga. Est-ce que pour vous, ils sont de retour, ces Blaugrana?
Bah, complètement. D'ailleurs, c'est la seule équipe invaincue en 2025, je crois, en Europe. Et c'est l'équipe qui joue le mieux, clairement. Ils ont, pour moi et pour beaucoup de personnes, le meilleur milieu de terrain du monde, le plus fourni en tout cas. Alors on vient de voir Gavi, il est même plus titulaire dans cette équipe-là. Et il le prend bien, il le prend avec le sourire. Et parce qu'il sait qu'il y a 17-18 joueurs qui sont vraiment à fond maintenant, qui ont leur pile rechargée, qui sont vraiment prêts à se sacrifier pour les autres. Ça, c'est la grande force de Anti-Flic. Hein. Ça n'est le nouveau coach qui a fait un nouveau système de jeu, notamment défense, un peu révolutionnaire. Avec, ils défendent pratiquement à la ligne médiane. Et ils n'arrêtent pas de presser. Ils ont cette capacité toujours d'enchaîner. Et puis en plus, ils peuvent compter sur des joueurs offensifs absolument incroyables. Rafinha, d'ailleurs c'est Thierry Henry hier sur la télé anglaise qui en parlait du possible ballon d'or, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de la compétition. Il est décisif à chaque match. Lewandowski est un petit peu en retrait comme il est ces dernières semaines, alors que dire de Lamine Yamal. Il a 17 ans là, comme on le rappelait. Je crois qu'il a marqué hier le plus beau but de sa carrière, même devant celui qui avait marqué contre l'équipe de France à l'Euro. Et on voit que c'est un groupe déjà plein de confiance. Les supporters, maintenant, ils s'en prennent à rêver. Ils en viennent même à parler de tripleté. Maintenant, on gagne le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Il y a un vent d'optimisme incroyable à Barcelone. On ne parle pas beaucoup de ce Barça, finalement, parce qu'ils ne jouent pas des grosses équipes, à part le Real. Qu'ils ont atomisé 4-1 et 5-1, je crois, cette année en championnat et en coupe et en super coupe du roi. Donc, tous les voyants sont au vert et effectivement, on voit pas que ce soit Dortmund ou Lille, celui qui va être opposé lors du prochain tour en quart de finale, qui pourrait les arrêter.
Ouais. Manu, en même temps, on en parle parce que cette jeune équipe, elle est quand même peuplée de gens issus. Et c'est toujours la magie avec le Barça. Elle est issue quand même du centre de formation. Et ça, c'est quand même quelque chose de notable. Hein. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, tout ça, c'est beau à voir en plus. Oui.
Barsi, Casado. Déjà, c'est une institution qui ne se fait pas de soucis pour faire jouer les plus jeunes. Et qui a aussi
Après, les cases vite, malheureusement.
Oui, et qui a eu d'autres. L'effet dès qu'ils sont avec des soucis économiques, évidemment, ça a forcé les clubs à chercher des jeunes joueurs comme ça. Ouais. Et aussi, il y a un truc que je trouve très intéressant cette saison, parce que pour moi, l'effectif était un peu court. Mais l'effet d'avoir subi, ou quelques joueurs qui ont subi des blessures lors des premiers trois mois, a obligé, entre guillemets, parce que j'ai dit qu'ils ne se font pas de soucis pour cela, faire jouer des joueurs plus jeunes.
Casado au milieu, notamment.
Voilà, exactement. Casado qui a trouvé sa place. Donc, ça a permis maintenant que l'effectif où tu avais 16 joueurs, on va dire 17, maintenant tout avant, parce qu'il y a 2-3 jeunes qui sont habitués à jouer avec la première équipe. Donc déjà, comme je disais, que c'est une équipe qui ne se fait pas de soucis, qui historiquement a toujours fait confiance aux jeunes joueurs. Cette saison a été entre guillemets obligée, et du coup, ça allait élargir son effectif et avoir 17-18 joueurs, pas qui peut jouer, mais qui peut jouer à un très très bon niveau.
David, ils ne se mettent pas à rêver un peu tôt quand même, les Barcelonais, là, de triplette et de tout ça. Alors François, je le sais, il nous le dit, c'est la meilleure équipe du monde du moment, bien sûr. Mais,
Exactement.
Mais le PSG aussi, si je ne me trompe pas, le PSG ne perd pas aussi depuis le début de 2025.
Le PSG, l'Inter, n'oubliez pas l'Inter.
Oui, l'Inter, qui rencontrera le Bayern au prochain tour. Y a un effet de souffle qui me rappelle quand même la belle saison, la très belle saison, assez ramassée en temps avec la pandémie, mais que Hansi Flick avait faite avec le Bayern, justement, qui a été bien documenté. Oui. Un effet de souffle, c'est-à-dire que l'entraîneur avait trouvé son système et il dégageait avec son équipe une espèce de certitude. Ça ne veut pas dire supériorité, ça ne veut pas dire suffisance, mais la sensation...
L'aspect mental aussi,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
La plénitude.
Plénitude, oui, oui. Avec un jeu, un équilibre, du talent aussi. Alors, ce n'est pas la même constellation, c'est-à-dire que là, il y a plus de jeunesse. Mais Hansi Flick, qui était arrivé peut-être à une limite en Allemagne, où on se disait, ben, il n'a pas forcément un plan B, où il arrive un petit peu difficilement à renouveler sa façon de penser. Avec le Barça, là, il a montré qu'il pouvait, comme nous l'expliquait François tout à l'heure sur le système de jeu, il a montré qu'il pouvait proposer aussi quelque chose de nouveau et s'adapter à l'environnement, la jeunesse des joueurs, la montée en puissance de certains. Mais ce que fait le Barça à ce moment-là de la saison me paraît porté par une certaine force, quoi.
Chérif, cette équipe et surtout son entraîneur, qui est quand même à sa première saison, là, Hansi Flick, avec et en Espagne et avec le Barça, ça vous impressionne ?
Énormément. Énormément. C'est pas que j'avais des doutes ou quoi que ce soit, mais on était tous restés sur l'échec d'Hansi Flick avec la sélection allemande,
et oui,
qui a complètement je dirais pas détruit sa carrière, c'est pas ça, mais on disait, mais
il y avait une ombre au tableau, en tout cas.
Voilà,
c'est
comment
sûr.
Il va rebondir Parce qu'on s'était dit, bon, le Bayern, il n'est pas resté longtemps, ok, il a gagné, mais enfin, là, il arrive, il trouve ses marques. Alors, par contre, au niveau de la méthode, c'est toujours le 4-2-3-1. Les joueurs se sont fondus dans ce système. Comme l'a dit notre ami
Manu,
il y a un effectif qui est largement étoffé. En plus, il y a une émulation entre les joueurs. Moi, je regarde le milieu de terrain. Il y a des fois, Olmo, il est sur le banc alors qu'il serait titulaire dans toutes les grands clubs.
Fermín Lopez, qui serait titulaire dans trois quarts des clubs en Europe. C'est incroyable.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Frankie de Jong aussi.
Chérif s'emballe parce que Olmo était même pas titulaire à Leipzig. Donc, tu t'emballes.
Non, il était titulaire.
C'est un super joueur, par contre.
Ouais, non. Mais bon, peu importe. Donc, voilà, il y a cette émulation. Alors, le petit bémol que je mettrais, c'est peut-être la défense centrale. Des fois, je vois
ils
que...
Ils encaissent beaucoup de buts, quand même.
Voilà, ils encaissent beaucoup de buts. Après, bon, c'est la rançon, puisque comme ils jouent le déséquilibre, comme l'a dit François...
C'est spectaculaire.
Voilà, l'équipe est très haute et tout. Alors, des fois, il y a des coups de... Il y a des zones de turbulence, et moi, je les situe plutôt dans la défense centrale. C'est pas que c'est pas bon, c'est très bon. Et j'ai l'impression qu'aussi, avec Ter Stegen, il y avait une petite confiance du bloc défensif avec son gardien, une meilleure communication qui faisait qu'ils étaient plus en confiance.
Mais il a
c'est
fait ses preuves
bémol.
La semaine dernière, là, Chesney. Je crois qu'il a fait 8 arrêts.
Oui, il avait été
l'homme du match aussi.
Bien sûr. Il fait un bon intérim, mais ça, vous avez raison de le souligner. C'est juste un petit bémol. Sinon, en effet, Barça, PSG et l'Inter... Pour l'instant, c'est ce qu'on fait de mieux.
François, d'ici une heure à peu près, commencera le match qui définira l'adversaire entre Lillois et Dortmund.
Oui. Je crois qu'ici, ils préfèrent que ce soit Lille, effectivement, parce qu'ils ont moins grosse
réputation que
Borussia.
Ils ne connaissent pas Genesio.
C'est ce que je leur dis. Je dis, vous ne connaissez pas Pep Genesio, les gars. Et c'est vraiment fort, Lille. Au-delà de ça, on parlait de Flick. Moi, ce qui m'impressionne le plus sont les détails, quoi. Comment est-ce qu'il gère son groupe? Je sais pas comment est-ce qu'il se comportait comme ça au Bayern. Peut-être que David pourra nous le dire, mais sur chaque personne qui sort, par exemple, on sait que ça leur fait pas plaisir aux joueurs de sortir. Ils font toujours la tête. Eh ben, il y a toujours un petit mot. Oui. Après, il les prend dans les bras. Oui. Dans la gestion avec les jeunes, il est incroyable. Il est visiblement adoré par ses joueurs. Et j'ai l'impression, moi, que tout le groupe se battrait à fond ou à mort pour lui, quoi. Donc, je sais pas la différence par rapport à l'autre Flick de 2020, mais ce Flick de 2024 il est bluffant.
François a raison, c'était ça, c'est sa grande force managériale. Alors, je sais pas comment il faut la qualifier. Est-ce que c'est le côté humain? Est-ce que c'est le côté manager? Est-ce que c'est le côté papa? Je sais pas comment le qualifier exactement.
Il est très exigeant
on voit bien qu'il communique. Il a été joueur, bien sûr. Et bon, d'autres aussi qui sont cassants. Donc c'est pas forcément une explication, mais il a une communication facilitée avec les joueurs. Effectivement, les scènes que décrit François, ça me rappelle des choses aussi avec le Bayern. interne pour éventuellement consoler, pour remettre dans une dynamique un joueur qui vient de sortir. Ça, c'est un détail qui ne lui échappait pas aussi avant.
Et puis, il vit les matchs intensément. C'est pas l'entraîneur figé comme un bloc de granit, tu sais, qui communique rien du tout, pas de sentiments. Là, tu le vois, tout. Il est.
Ancelotti est plutôt comme ça, et puis ça fonctionne aussi. C'est.
Ouais,
c'est,
mais Ancelotti aussi. Ouais, mais Ancelotti est aussi capable de sauter en l'air, de sauter dans les bras de son fils. Wirtz, c'est très, très, très.
Bon, bah,
très
François explosif. David, on sera attentif donc à qui sera le prochain adversaire, et on se retrouvera pour en parler d'ici un petit mois, puisque ça sera après,
après la trêve
internationale dans tout ça. Muchas gracias, François.
A ustedes. À bientôt, très vite.
À bientôt, merci. Une petite pause avec El Gato Negro et Hassan Boup, et ça s'appelle Mundo Kai. Et de Del Gato Negro, le chat noir, hein, mais ici on parle que de chat blanc puisque ça porte bonheur en général au club. Et c'est à retrouver sur la playlist de RFI.
Et attention quand même à Barcola dans la surface de réparation sur le côté droit. Barcola qui peut donner à Dembélé. Oh, Dembélé qui va pouvoir récupérer. Oh, la vue du PSG. Voilà, c'était en deux tirs au but ici entre Liverpool et Paris Saint-Germain pour déterminer qui ira en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est parti pour la course d'élan de Darwin Núñez, la concentration de l'Uruguayen costaud aussi. Il va tirer du droit Darwin Núñez. Oh, l'arrêt! L'arrêt de Donnarumma qui est parti du bon côté. Et Donnarumma qui est venu arrêter, il lève le point. Et ben voilà, avantage au Paris Saint-Germain. C'est parti pour Harvey Elliott. Oh, la parade de Donnarumma, la revanche. La revanche, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Il est parti du bon côté.
And Paris Saint-Germain have made history at Anfield tonight, overturning a first leg home defeat. Donnarumma's their hero. Enrique's on the pitch with his players.
Et le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Désiré Doué qui réussit son tir au but. Ils viennent tous
sur Donnarumma, il y en a sur Désiré Doué, il y en a sur Donnarumma, parce que c'est lui le héros de cette séance de tir au but. Paris qui a tenu, qui est venu un petit peu prendre sa revanche ici à Anfield et qui vient se qualifier 4-1 au tir au but face ici au Reds et qui vient éliminer la meilleure équipe d'Europe. Paris qui fait un exploit ici à Anfield. Incroyable ce PSG qui a donc réussi cette séance de tir au but et qui est donc au quart de finale de la Ligue des Champions.
CDO, Cédric de Oliveira, le chat blanc, hein, le gâteau blanco, le porte-bonheur de cette équipe du PSG. C'était donc une nuit de folie à Anfield pour le Paris Saint-Germain. On les a vus, ces Parisiens se sauter dans les bras les uns des autres pour fêter cette qualification qu'ils sont allés chercher jusqu'au bout de la nuit. Alors, il y avait 3500 supporters dans les tribunes à Anfield. Alors, ils avaient de la chance. C'est eux qu'on entendait aussi, mais sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il y avait partout ailleurs des supporters de par le monde, des supporters parisiens. Et écoutez ceux-ci qui voulaient immortaliser ce moment, cette qualification.
Darwin rate. Tu tires avec la peur, Darwin. Darwin rate. Darwin, tu tires avec la peur, Darwin. Ouais. J'ai dit quoi? Ton aroma.
Désiré, oh, l'instant sublime, ma gueule. Oh, là, tu le mets, on gagne. Tu le mets, on gagne. Désiré, je t'en supplie, mets-le. Allez, 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 je t'en supplie. Pour tout ce qu'on a subi, Désiré, je t'en supplie.
Merci Paris, merci, c'est pour vous, c'est pour vous.
Et oui, alors c'est vrai que ça fait, ils reviennent de très très loin ces Parisiens à chaque fois. Hein, ils en ont vécu des moments difficiles et des éliminations très très justes. Et écoutez, soudain, on l'a vu sauter dans les bras de ses joueurs, on l'a vu se réjouir Luis Enrique. Et bien soudain, dans la nuit anglaise, Luis Enrique parle français.
Un très bon fête. Je suis très content parce que on a montré que sont une vraie équipe. C'est quelque chose qu'on va dire. Et il y a beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match. Et on est fiers de faire une vraie équipe.
Il le parle bien, le français, en plus.
Très bon match, on a bien compris. Et en plus, il a raison, enfin, il me semble.
Bah oui. Alors, David, allons-y. C'était un scénario parfait pour un défi, on le sait, qui était énorme chez le futur, vraisemblablement, champion d'Angleterre. Et aussi au son d'un You'll Never Walk Alone qui donne des frissons, en principe, et qui pousse sa propre équipe des Reds.
Oui, il y avait deux scénarios qu'on pouvait, me semble-t-il, raisonnablement envisager. Le premier, c'était que le Paris Saint-Germain regrette tout ce qu'il avait réussi de bien au match aller, avec finalement pas de conclusion, pas de un score défavorable, le fait de regretter des occasions, semi-occasions, et de pas avoir été réaliste, donc de s'en mordre les doigts parce que Liverpool aurait assumé son statut chez lui, ou alors à l'inverse, construire, et c'est sans doute ce que Luis Enrique a fait en partie avec ses joueurs, peut-être dans ses discours, j'imagine, construire sur les belles choses du match aller, sur les solutions trouvées, sur un Liverpool quand même parfois sévèrement recroquevillé sur sa propre surface au Parc des Princes, et le Paris Saint-Germain, c'est là où il a été fort sans doute, a réussi à reproduire les belles choses qu'on a vues la semaine dernière à Paris. C'est ça qui est fort, parce que souvent, ben, ça se délitait parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un grain de sable ou quoi. Là, ils ont passé outre ce problème-là. Après, on peut peut-être discuter sur la valeur du moment de Liverpool, mais ce qu'a réussi Paris Saint-Germain, aller-retour, c'est fort.
Mmh. Et surtout, en deuxième mi-temps, ça a quand même été très difficile pour Cherif Guémo. Autant la première mi-temps, il y a ce but qui vient assez tôt et qui remet les pendules à l'heure. Et puis après, quand même, toujours ce manque de précision quand même de la part des buteurs. Ils ont essayé beaucoup, mais il y avait aussi une super défense du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, François David nous parlait des manquements parfois du Barça. Là, on a vu Nuno Mendes en feu qui laissait pas Salah partir jamais tout seul ou avancer, et Pacho aussi.
Ouais, en fait, il n'y a pas de grandes occasions de Liverpool. Alors évidemment, il a fallu serrer les fesses quand même, parce que bon, les vagues rouges, c'est une réalité, il y a eu des occasions, il a fallu que Donnarumma se démène. Mais quand on regarde finalement les deux matchs, il y a eu 4 mi-temps, il y en a 3 pour Paris, les 2 à l'aller et la première hier soir. ça fait déjà 3 sur 4. Les prolongations, elles étaient aussi parisiennes. Les tirs au but, j'en parle pas. Mais comment dire, c'est peut-être dans cette deuxième mi-temps où ils ont souffert, au vrai niveau européen, c'est-à-dire la haute intensité, s'ils ont résisté à ça, la deuxième mi-temps, je pense que c'est ce temps faible qu'ils ont subi, pour moi, c'est leur vrai baptême du feu. Et c'est aussi là-dessus qu'ils vont pouvoir se projeter. Parce que quand ça s'appelle la force collective, ils l'ont déjà. C'est ce qui a terrassé, je pense, Liverpool au match aller. Moi, je les ai vus. J'ai vu de la peur dans le regard de Arne Slot. J'ai vu de l'inquiétude dans le regard des supporters. Il y avait toujours des gros plans. Ils savaient qu'à l'aller, il s'est passé quelque chose d'énorme, que Liverpool s'est fait balader comme ils n'ont jamais été baladés cette saison. Et après, le reste a suivi. Mais c'est bien que Paris ait aussi subi. Ils savent maintenant ce qui les attend pour les tours suivants.
Manu Tellazio, ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, cette équipe des Reds, elle n'était pas si forte que ça. Et peut-être qu'elle a... Alors certes, elle a une très large avance en championnat et tout, mais ce n'est peut-être pas son meilleur moment de la saison.
Ah non, pas du tout, pas du tout. On l'a vu lors de des matchs, l'aller et les retours. Pour moi, la première mi-temps, c'était pour Liverpool. La différence, c'était que les occasions du PSG étaient très claires. Ça, c'est la différence par rapport, par exemple, au premier match où il n'y avait pas d'occasion pour Liverpool. Là, même si les ballons, à mon avis, c'était pour Liverpool, le PSG savait comme faire mal. Et puis, la deuxième étape, c'était une asphyxie. OK, bah, il fallait, parce que c'était match nul et toujours à la maison, mais les 30 minutes d'extra time, évidemment, c'était pour les PSG. Salah, il était très bien les premières 5 minutes, il a eu 2 occasions. Après, on avoue, surtout la dernière heure du match, qu'il préférait centrer les ballons, qu'il voulait plus dribbler parce qu'il n'était pas en confiance. Donc, est-ce que Liverpool n'était pas à son meilleur niveau de la saison? Oui. Est-ce que, quand on voit les résultats finaux qui s'est qualifié, c'est aussi à cause de ce qui a fait le PSG? Pour moi, aussi, c'est très clair que c'était le PSG qui a un peu c'est la faute, entre guillemets, du PSG, que Liverpool sort comme il est sorti.
Oui, c'est grâce, c'est pas la voilà, faute, c'est grâce c'est à la, eux, la, en la tout la cas. Faute, grâce dis, à leur voilà. travail. Il faut souligner que la dernière défaite de ces Reds sur leur pelouse, c'était face à Nottingham Forest, c'était le 14 septembre dernier. Leur seule défaite en championnat en plus. En tout cas, il faut quand même rendre hommage et s'arrêter sur Didio Donnarumma, désigné homme du match. Et on a eu l'impression, peut-être, je ne sais pas pour vous, David Lortolari, qu'on retrouvait le personnage peut-être que c'est l'air d'Angleterre qui l'a réveillé, mais celui qu'on avait vu à l'Euro en 2021, celui qui avait sacré l'Italie championne d'Europe, et surtout lui qui avait été meilleur joueur de l'Euro. Et d'ailleurs, hier, il a été meilleur joueur.
Merci Paris, merci, c'est pour vous.
Alors l'Italie fête son héros, héroïque, la Gazzetta parle d'un super Gigio, bon, on lui doit presque des excuses, parce que c'est vrai qu'au match aller, on pensait que c'était le seul coupable, et d'ailleurs il a dit « Je suis content de répondre à des pseudo-journalistes qui parlent sans savoir ce qu'est le métier de gardien ».
Oui, oui, ce métier de gardien qui est quand même tellement particulier, on sait qu'il est capable... Avec sa grande taille, avec son côté
1m94.
Félin. Voilà, il peut réussir.
Il a impressionné au moment des tirs au but, clairement.
Oui, c'est ça. Sur sa ligne, c'est un atout énorme pour l'équipe. On sait qu'il peut faire ça. On sait qu'aussi, il était capable, et il l'a montré hier, d'avoir une certaine sérénité dans le domaine aérien. Ce qu'on connaissait un peu moins, c'est cette capacité, enfin ce dont j'avais moins souvenir, cette capacité à... On a vu ses yeux, Chérif parlait des yeux des supporters de Liverpool qui avaient peur tout à l'heure, et Arne Slot aussi au match aller. J'ai vu hier, dans la séance de tir au but, Donnarumma avec des yeux de tigre. Mais alors vraiment, vraiment des yeux de tigre.
Dans un état second, pareil. Ouais, oui. J'ai remarqué la même chose. Ouais, ouais. Et c'est pas de la panique ou de la peur ou c'est de l'extrême concentration. C'est
mais il est bon,
presque de la sérénité, mais avec un regard de tueur.
Mm-hmm.
C'était pas du tout le cas d'Anderson ou d'autres gardiens sur les tirs au but.
Oui, alors il arrête les deux tirs au but qui sont pas extrêmement bien tirés, pas extrêmement bien précis, voilà. Mais ça veut dire qu'il répond présent au moment où on a besoin de lui. Et c'était un peu le doute qui s'était immiscé dans nos esprits au fil des saisons. C'est-à-dire que c'est un gardien qui a du talent, qui sait faire plein de choses, mais qui a aussi des failles, des faiblesses.
Alors,
là, il a montré une force mentale, au moins, hier soir.
C'est le bémol que je vais apporter. Alors, j'ai été agréablement surpris, pas les tirs au but, mais les sorties au point, parce qu'avant, il sortait très peu de sa ligne.
Oui.
Ça, c'est un bon point. Surtout que Liverpool a beaucoup centré, comme tu l'as dit, avec Salah qui n'osait plus dribbler, donc ils ont beaucoup centré, il est beaucoup intervenu. Après, il y a toujours cette petite maladresse, ces petits coups de mou. Je pense qu'il les aura toujours. On peut lui faire confiance globalement, mais il faut s'attendre aussi à ce que de temps en temps, il y ait un petit relâchement. Pour moi, c'est pas encore du niveau de Courtois. Courtois qui peut aligner des dizaines de matchs sans jamais se planter, on est bien d'accord. Ouais. Donnarumma n'en est pas encore là. Mais c'est bien, Manu. C'est bien.
Ouais, bien. On parle des les problèmes qu'il y a, à mon avis, c'est que c'est un gardien qui n'est pas trop testé au championnat national. La domination de PSG est telle qu'il n'est pas obligé d'intervenir tous les matchs 3-4 fois. Et c'est que c'était très important parce qu'on parlait de la défense du PSG. Ils sont très, très vite. Nuno Mendes, pour moi, il était magnifique le deux matchs face à Salah. Ce sont des joueurs très vite, mais quand ça s'agit des duels aériens, c'est où il vient les soucis. Parce que si on pense au match d'hier... On s'en souvient dès qu'il y a eu des occasions pour Liverpool, mais on n'arrive pas à voir exactement lesquelles, parce que ce qu'ils seront fait, c'est centrer plein des ballons. Et là, Gigi Donnarumma, c'est ça que j'ai dit, c'est pour rigoler, j'ai appris une expression en français, j'avais pas vous, c'était ballon boxé. Pour moi, c'était toujours dégagé. Je l'ai pris avec un coup de poing. Et il a fait 8 hier. Donc, il a été très sûr, il a été très rassurant surtout.
Il ne le faisait pas avant.
Oui, il n'y a pas non plus une équipe en Ligue 1 qui arrive centrée 8-10 fois contre.
Puis ils ne sont pas grands, les défenseurs du Paris.
Voilà, c'est
grands,
pour ça qu'il a, il a bien compensé les défenseurs vite qui freinaient les attaquants de Liverpool. Et puis lui, ça nous coupait très bien des ballons aériens.
Alors maintenant, se dresse bien sur la route de ce Paris Saint-Germain, vraisemblablement Aston Villa. On verra ce soir, ils ont gagné 3-1 à Bruges. Donc ça sera peut-être difficile pour Bruges de se qualifier. Aston Villa, rappelons-le, entraîné par un certain Unai Emery, ex-entraîneur de ce Paris Saint-Germain. En tout cas, écoutons le capitaine des Parisiens, Marquinhos, le Brésilien, qui d'ailleurs ne jouera pas le premier match des quarts de finale. Il est serein, Marquinhos, au micro de Cédric de Oliveira, pour entrevoir l'avenir.
On est loin, je pense qu'on a montré qu'on a des belles choses à aller chercher. Mais il faut toujours garder les pieds par terre, il nous reste encore beaucoup de boulot à faire. Il ne faut pas dire que Paris est favori maintenant, il ne faut pas dire ça y est, je pense qu'on a fait le boulot parce que c'est que le début. Et pas que le début, mais on a fait des belles choses, mais il faut continuer à travailler. Je pense que c'est ça aussi le discours que le coach va nous donner pendant la semaine. On n'a pas de temps à se relâcher parce que dimanche, on a un classico à jouer et à gagner. Et après, il y a la sélection, on revient et on a les matchs des coupes, on a la Champions League qui va revenir derrière. Il n'y a pas de temps de se relâcher, c'est ça que nous, on aime. Et on veut jouer dans toutes les compétitions, on veut aller chercher des titres, mais le chemin, il est loin, il faut vraiment rester dans la ligne qu'on est.
Le chemin est long, il ne faut pas s'enflammer, shérif.
Oui, parce qu'on connaît... Lui, surtout, Marquinhos, a vécu beaucoup de désillusions.
10 ans, hein, donc, je crois qu'il est là.
Donc voilà, mais sinon, il joue son rôle de leader. Et puis, voilà, je l'ai trouvé assez serein. En plus, il est sorti avant la fin du match. Alors malheureusement, ouais, il sera forfait, suspendu.
Il a eu un carton jaune, donc il sera suspendu.
Remplacé par Beraldo.
Mm-hmm. Oui, qui est rentré d'ailleurs en fin de match. Hein.
Pas mal.
Donc, même pas peur de ce qui va arriver. De toute façon, maintenant, ils sont un peu sur une planète différente désormais, ces Parisiens, non ?
Oui, et ce qui se dessine, c'est quand même... Alors, on ne va pas parler de montagne russe, bien sûr, mais on va avoir on va nécessairement avoir un style complètement différent d'opposition au prochain tour. Même si c'était Bruges, ce serait complètement différent. Différent de Liverpool, parce que c'est une équipe qui joue mais qui n'a pas le même impact.
Ah, ils ont peur de rien.
Oui.
Ils sont allés gagner à l'Atalanta, c'est pour ça. Ah, attendons de voir ce soir.
Oui, on va. Oui. Et puis après, éventuellement le Real ou l'Atletico. Bon, ce qui nous freine un peu peut-être dans l'enthousiasme des supporters, que les supporters peuvent avoir à juste titre. Enfin. Non, mais c'est qu'on est. Oui, c'est ça, on est en huitième de finale, on est qualifié en quart, il va y avoir de l'adversité et il va y avoir encore des équipes qui ont vécu tellement. Shérif insistait sur les 15 Ligues des Champions du Real, il y en a d'autres qui ont des arguments cette année. Mais c'est vrai que.
L'année dernière, Paris était favori contre Dortmund, soi-disant favori contre Dortmund, et ils ont perdu deux fois.
En demi-finale, effectivement. Ils étaient quand même allés en demi-finale l'année dernière.
Pas mal.
Bon, puis signalons, vous y avez fait allusion tout à l'heure, David. Le Bayern Munich est passé, victoire à Leverkusen, 5-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Et assez impressionnant, effectivement.
C'est dur pour Xabi Alonso.
Oui.
Et puis les Bavarois, eux, on le sait, ils retrouveront l'Inter Milan, vainqueur du Feyenoord 2-1 en Italie, des Nerazzurri, finalistes en 2023. On s'en souvient, c'était contre Manchester City et ils avaient perdu en finale. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. Merci Manu, David et Shérif. On se retrouve demain pour le nouvelle émission.